À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Michel Pastoureau, historien, très content de l'être depuis un demi-siècle.
Deuxième épisode, pour l'amour du Moyen-Âge. Bonsoir, bonjour Michel Pastoureau.
Bonsoir, bonjour.
J'aimerais pour cette deuxième émission de notre série que nous plongions avec vous aux sources de votre vocation d'historien médiéviste spécialiste d'héraldique. Et pour ce faire, je vais lire le tout début de votre livre « Dernière visite chez le roi Arthur », histoire d'un premier livre paru dans la collection extraordinaire de feu Maurice Olinder, la librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Voilà ce que vous écrivez. « Je suis médiéviste. Et la période qui a ma préférence est le Moyen-Âge central, particulièrement le XIIe siècle. Et s'il faut être plus précis, le dernier tiers de ce siècle. Là, je suis chez moi, au cœur du Moyen-Âge. C'est l'époque de la chevalerie et des tournois, de Chrétien de Troyes et des premiers romans arthuriens, de la diffusion des armoiries et du système héraldique. C'est aussi celle des débuts de l'architecture gothique, des bestiaires enluminés, des plus anciennes branches du roman de Renard. C'est surtout l'époque où Walter Scott situe l'action de son roman le plus célèbre, Ivanhoé, l'un des plus grands succès de librairie de tous les temps. Ce livre a fait de moi un médiéviste. À dire vrai, comme d'autres enfants de ma génération, j'ai vu le film de Richard Thorpe en 1952 avant de lire le roman de Scott, mais après avoir vu et lu Ivanhoé, j'ai définitivement préféré les chevaliers aux cow-boys et toute ma vie scolaire, universitaire et professionnel en a été tracé. J'avais alors 8 ans. C'est donc au cinéma qu'est née votre vocation, pourrait dire.
Exactement, c'est d'ailleurs assez banal, je pense. En tout cas, dans ma génération, dans les années 50, c'est l'apogée hein, dans l'histoire du cinéma. Et donc, j'ai vu Ivanhoé à l'âge de 8 ans dans un cinéma paroissial breton. J'ai dit que j'ai passé mes vacances sur la plage du Val-André. Et en arrière, il y avait le petit village de Pléneuf avec un cinéma tenu par la paroisse. Et la grand-mère d'un camarade gérait ce cinéma. Et ce camarade et moi-même, de temps en temps, nous faisions les ouvreuses. C'est-à-dire que nous vendions les Esquimaux. C'était l'occasion d'en manger beaucoup pendant les entractes. Ce qui m'a valu pendant toute une semaine de voir chaque jour le film de Richard Thorpe, Ivanhoé, que j'ai beaucoup admiré, que j'ai revu je ne sais combien de fois depuis. Je connais les répliques absolument par cœur.
Par exemple, donnez-nous-en quelques-unes qui vous viennent comme ça.
« Son sang va bientôt teindre sa bannière d'écarlate » ou « Un chevalier tout noir comme un corbeau de mauvais augure » des choses de ce genre. Donc j'ai vu ce film plusieurs fois de suite pendant toute une semaine à l'âge de 8 ans et en effet j'ai cessé d'admirer les cow-boys, je me suis mis à admirer les chevaliers et ça ne m'a jamais quitté, non pas les chevaliers eux-mêmes mais tout ce qui tournait autour, c'est-à-dire un certain Moyen-Âge, celui de la chevalerie, des tournois, des armoiries, de cette fin du XIIe siècle. Le roman se passe en 10 jours, hein, au mois, à la fin du mois de mars 1194. L'histoire est assez ramassée et tout ce qui fait que pour nous le Moyen-Âge est le Moyen-Âge est déjà là. À la fois dans le film, bien sûr, mais aussi dans le roman de Walter Scott qui paraît à la fin de l'année 1819, donc il y a plus de 2 siècles, et bien tout ce qui fait que pour nous le Moyen-Âge est le Moyen-Âge est dans le livre de Scott. Le tournoi, la croisade, le procès en sorcellerie, l'attaque du château fort, les méchants templiers, le frère usurpateur, le roi prisonnier, l'énorme rançon payée, etc., etc. Tout est déjà là. Et nous sommes à l'époque romantique, hein, en 1819. C'est tout à fait étonnant du point de vue historiographique.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était une fascination? C'était comme une révélation en vous disant je veux travailler sur ça? Ou ça, c'est quand même un petit peu tôt, un peu prématuré? Est-ce que vous vous souvenez, ou peut-être le 6e jour, puisque vous l'avez vu pendant toute une semaine, de ce que vous vous êtes dit ou de ce que vous avez ressenti?
Il y a deux choses. Il y a l'histoire. Le roman de Scott fournit au metteur en scène un scénario absolument merveilleux. Tout est construit. Il n'y a rien à réécrire. Et donc l'histoire m'a bien plu, comme un petit garçon, bien sûr, avec tous les ressorts dramatiques qui fait que...
On s'identifie au preux et noble chevalier voilà, qui est Ivanhoé.
Non, pas moi. Moi, je suis de ces lecteurs ou spectateurs qui ne s'identifient pas au héros principal, mais en général à un héros secondaire, en quelque sorte. Je n'aime pas beaucoup les vainqueurs, à dire vrai. Ils sont trop d'une pièce. J'aime les personnages plus nuancés. Donc c'est pas Ivanhoé qui me plaisait, ça n'est pas non plus le méchant Bois Guilbert qui est lui aussi tout d'une pièce. Ce sont deux personnages principaux. C'est un troisième personnage qui s'appelle De Bracy dans le roman comme dans le film d'ailleurs. C'est au fond le compagnon de Bois Guilbert. Il me semblait beaucoup plus intéressant parce que il est du côté des méchants mais il ne l'est pas complètement. Bref, j'ai beaucoup aimé l'histoire et surtout j'ai beaucoup aimé le décor, les costumes, les armoiries, les couleurs qui sont Technicolor, bien sûr. C'est un grand film hollywoodien, longtemps critiqué, méprisé plutôt par la critique et les historiens du cinéma américain. Aujourd'hui, on reconnaît ses qualités, donc il a été rétabli en quelque sorte. C'est vraiment un film admirable du point de vue simplement cinématographique.
C'est important que vous disiez ça, non seulement parce que ça a été l'origine de votre vocation, Michel Pastoureau, mais aussi parce que vous avez parfois la dent dure, en tous les cas critique, avec un certain nombre de films, notamment sur la légende arthurienne, hein, qui est votre spécialité, Les Chevaliers de la Table Ronde, du même Richard Thorpe, un an plus tard, en 1953, ou pire encore, Excalibur, John Borman, en 1981, n'ont pas vos faveurs du tout, par exemple.
Non, Les Chevaliers de Table Ronde de Richard Thorpe l'année suivante, c'est un peu kitsch.
Malgré Ava Gardner.
Malgré Ava Gardner, pour qui j'ai une admiration immodérée, comme tout le monde, tous les hommes en tout cas.
Pour rassurer les femmes aussi.
Et l'Excalibur de Borman n'a aucun rapport avec la légende arthurienne que je connais. Le textile joue un rôle considérable dans la légende arthurienne, telle que la mettent en scène les romans de chevalerie médiévaux. Chez Borman, le textile ne joue aucun rôle et c'est le métal. Tout est métallique, ça fait des bruits épouvantables qui n'ont absolument rien de médiévaux. Enfin bref, moi qui suis, évidemment, je suis un mauvais spectateur puisque je suis spécialiste, même hyper spécialiste. Donc il vaudrait mieux que je regarde des films qui se passent dans la Chine impériale ou le Japon du Moyen-Âge où mon savoir est bien moins grand, donc je serais meilleur spectateur.
En tout cas, à l'époque, vous ne l'étiez pas encore spécialiste quand vous étiez enfant et que vous découvriez ce film Ivanhoé de Richard Thorpe dans cette petite salle de l'arrière-pays breton. Mais vous étiez déjà un amateur de cinéma, c'est-à-dire que vous me disiez hier par rapport à votre enfance que vous aviez grandi dans les livres, il y en avait beaucoup chez vous, que vous aviez grandi dans les tableaux, dans la peinture, vous alliez beaucoup au musée, donc la peinture vous entourait. Mais vous aimiez aussi beaucoup le cinéma, et ce grâce à un professeur d'anglais du lycée, je crois.
Oui, grâce à ma famille d'abord, ma grand-mère aimait beaucoup le cinéma, donc ma cousine et moi, nous allions au cinéma avec notre grand-mère une fois par semaine peut-être. Ma mère aimait bien le cinéma aussi, ça peut se raconter, elle avait une sorte de passion pour Gregory Peck, alors je crois qu'enfant j'ai vu tous les films de Gregory Peck, et puis surtout au lycée, on disait lycée pour le collège et le lycée à cette époque, le professeur d'anglais, dont scandaleusement j'ai oublié le nom, animait le ciné-club dans les grandes classes, et venait qui voulait, il y avait projection, et ensuite commentaires, discussions, c'était bon enfant, c'était ouvert à tout le monde, et cet homme nous a donné, à mes camarades et moi, les bases de l'histoire du cinéma en nous faisant aimer un certain nombre de films qui comptent parmi les grands films des années 50 et 60, parfois plus anciens. Ça dépendait des copies qu'il trouvait. C'est lui, par exemple, qui m'a fait aimer, bien que ce soit des films difficiles pour des adolescents, les premiers Bergman, pour lesquels j'ai une passion, alors que je n'aime pas la deuxième carrière de Bergman avec ses grandes productions, Fanny Alexandre, etc. En revanche, La nuit des forains, les fraises sauvages, la source, jeux d'été sont pour moi des chefs-d'œuvre. La nuit des forains, c'est un chef-d'œuvre immense. Il aimait beaucoup le cinéma japonais aussi. Il m'a fait aimer Misoguchi, et notamment ce chef-d'œuvre absolu, Les Contes de la Lune Vague après la pluie. Il m'a fait.
Vous dites que c'est le plus grand film de tous les temps.
Pour moi, c'est le plus grand film de tous les temps, plastiquement, si je puis dire. C'est d'une beauté formelle, dans un noir et blanc sublime. Quelquefois, ce professeur d'anglais trouvait ses copies en Belgique. Alors, nous avions des films parlant suédois ou japonais, sous-titrés en néerlandais. Il nous disait, bah, vous apprécierez l'aspect formel. Et c'était vrai, c'était vrai. Il aimait beaucoup Ozu aussi. Quelques films italiens, dont certains n'étaient pas pour les enfants, si je puis dire. Les premiers Fellini, bien sûr. Je me souviens, ils avaient projeté les Vitelloni. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Je crois que c'est de 1953, donc on l'a vu 10 ans plus tard, nous. Mais ça annonce déjà la Dolce Vita. Plus tard, Chronique d'un amour d'Antonioni. Enfin bref, des grands classiques, mais pas trop le cinéma américain. Donc on n'a pas eu beaucoup de projections de films américains. Mais plusieurs Hitchcock quand même. Hitchcock dans sa période anglaise, notamment Une femme disparaît, que j'avais aimé au-delà de tout quand j'étais adolescent.
Il n'empêche que vous avez gardé de cette période et de cette première cinéphilie un amour immodéré pour le cinéma comme art en noir et blanc. C'est paradoxal pour un historien des couleurs.
C'est paradoxal, mais il y avait déjà des films en couleurs à cette époque, notamment Ivanhoé de Richard Thorpe. Mais majoritairement, c'était encore du cinéma en noir et blanc. Et j'ai du mal encore aujourd'hui à me faire à l'idée que le cinéma en couleur, c'est aussi du cinéma. Pour moi, le cinéma, comme la photographie d'ailleurs, c'est d'abord un art du noir et blanc. Je pense qu'il aurait fallu trouver un autre mot quand le cinéma en couleur s'est largement diffusé puis imposé. Ça entraîne une confusion. C'est pas du tout la même chose, le cinéma en noir et blanc et le cinéma en couleur. Et mes préférences, bien sûr, vont au cinéma en noir et blanc.
Alors Michel Pastoureau, on parle de votre vocation naissante qui est venue grâce au cinéma et à ce grand film, donc Ivanhoé. Mais le cinéma est resté quelque chose d'important au point que même spécialiste cette fois de la légende arthurienne, de cette époque du Moyen-Âge, en particulier 12e et 13e siècle, vous avez été contacté par Éric Rohmer pour que vous soyez conseiller historique sur son film Perceval le Gallois. On est en 1978 et je crois me souvenir que c'est Fabrice Lucchini qui joue le jeune Perceval.
Oui, tout à fait. Et Rohmer a pris contact avec moi après avoir lu mon premier livre, La vie quotidienne au temps des chevaliers de la Table Ronde. Comme l'histoire de Perceval se passe parmi les chevaliers de la Table Ronde, c'était assez légitime, sauf que j'étais un tout jeune auteur, j'avais 30 ans. J'étais évidemment assez timide. Et notre collaboration, qui a duré quelques jours, un peu difficile parce que lui-même était assez timide et d'une timidité intimidante pour l'interlocuteur. Mais enfin, nous avons quand même pu échanger dans une période de grand froid au début de l'année 1978, au mois de janvier. Et Rohmer me faisait parler et prenait des tas de notes sur des détails concernant le costume, bien sûr, les couleurs. J'étais dans mon élément, je lui donnais des conseils. Tout ça s'est assez bien passé. Et quand il m'a invité à la première projection du film, une année plus tard, j'étais sidéré parce qu'il n'avait tenu absolument aucun compte de tout ce que nous avions dit, ni pour les décors, il avait fait d'autres choix, de simplification notamment, ni surtout pour les couleurs. Et je lui avais dit surtout pas de violet, et le film déborde de violet. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé?
Je n'ai pas osé lui demander. Je respecte la liberté du créateur. Est-ce qu'il a perdu ses notes? Est-ce qu'il a fait exprès de prendre le contre-pied de ce que lui disait un jeune historien? Est-ce qu'il y a eu d'autres raisons, des changements liés à la production? Je ne sais pas. Là, il avait un peu d'argent. Donc, il a peut-être fait autre chose. Je me souviens également qu'il m'avait fait part de son projet de traduire en vers modernes les vers de Chrétien de Troyes en ancien français. Tout de suite, j'ai senti que c'était une mauvaise idée, mais je n'ai pas trouvé le courage de le lui dire. Et donc, le film a un peu dérouté le public, peut-être à cause de ses vers modernes, peut-être à cause de cette façon dont il a joué la distanciation par rapport à la reconstitution historique. Les décors sont évoqués, simplifiés, évoquent un peu les miniatures, mais sans plus. Moi, j'aime beaucoup le film, il est un peu long, bien sûr. Le grand public l'a malheureusement un peu boudé. J'aime énormément le cinéma de Romer. Comme je suis un peu vicieux, mon film préféré, c'est un film dont personne ne parle jamais, un des tout premiers courts-métrages de Romer, qui s'appelle « La boulangère de Monceau ». Ça dure 26 minutes. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre du cinéma français.
Est-ce que vous avez été plus écouté, Michel Pastoureau, quelques années plus tard, quand vous avez à nouveau été conseiller historique, cette fois sur Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Haneau ? Est-ce qu'il a tenu compte, lui, de ce que vous aviez dit ?
Oui, parce que nous étions une équipe de 8 historiens, sous la direction de Jacques Le Goff, ce qui n'est pas rien. Et donc, chacun avait un peu une spécialité pour donner des conseils. Là, le budget était énorme. Moi, j'étais chargé des costumes, des couleurs, des emblèmes, des insignes. Comme c'était une histoire de moines et de différents ordres monastiques et religieux, il fallait donner à chacun le costume et les couleurs qui convenaient, plus les problèmes hiérarchiques entre les abbés, les demi-abbés, etc. etc. Bref, je m'occupais de tout cela, plus les couleurs d'une manière générale. Nous étions au début du XIVe siècle, donc je connaissais bien l'univers coloré de cette époque, et puis conseiller pour les animaux aussi, puisque c'était mon autre spécialité. Et là, j'ai fait une très grosse bêtise. Au début du XIVe siècle, les cochons ne sont pas roses. En Europe, les cochons deviennent roses ou blanc-roses au XVIIIe siècle seulement. Je le savais très bien, puisque je suis historien du cochon et historien des couleurs. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai oublié et j'ai laissé mettre en scène des cochons roses.
4 siècles d'avance.
Et je m'en suis souvenu à la dernière minute, donc je préviens les régisseurs. Nous avons donc cherché à la va-vite des cochons noirs, comme ils étaient au début du XIVe siècle, ou gris, ou tachetés, ou bruns. Impossible d'en trouver. Donc on a fait une chose monstrueuse, peint à la bombe les cochons roses en noir. Ça a fait des cochonneries épouvantables, si je puis dire, et Jean-Jacques Haneau était très très satisfait de cette scène gore. C'était exactement ce qu'il voulait pour mettre en scène un certain misérabilisme dans la vie des campagnes, et notamment des paysans avec leurs cochons.
Qu'est-ce que vous ont appris ces deux expériences de conseiller historique sur des films ? Est-ce que c'était instructif pour votre travail d'historien ?
C'était extrêmement instructif parce que j'ai appris beaucoup de choses. On s'aperçoit que quand on est historien du Moyen-Âge, à cette époque comme aujourd'hui, je pense, on connaît bien la vie matérielle, la vie quotidienne, reconstruire les décors, le cadre de vie, les costumes, tout ça, c'est assez facile. On connaît assez bien également les mentalités, les sensibilités, les symboles, l'imaginaire. On a beaucoup travaillé sur ces problèmes-là. C'est entre les deux qu'il y a un trou, et notamment, ce qui est essentiel pour le cinéma, mais aussi pour le théâtre, les gestes. Comment on se dit bonjour ? Jean-Jacques Haneau m'a posé cette question. Que font les moines dans telle ou telle circonstance ? Est-ce qu'ils ont le capuchon sur la tête pendant l'office, au réfectoire ? Pour lui, c'était important parce que s'ils n'ont pas le capuchon sur la tête, il faut voir la tonsure des moines. Ça veut dire tonsurer un certain nombre de figurants. Ça veut dire une prime de tonsure pour ces figurants. Donc budgétairement, c'est pas la même chose. Et naturellement, moi, historien, et mes collègues, nous étions incapables de répondre. Donc on prenait conscience de ce que nous ne savions pas. Et de ce point de vue-là, c'était très instructif et très intéressant.
Et comment avez-vous travaillé ? Comment avez-vous appris ? Comment on se disait bonjour au XIVe siècle, alors ?
Alors, nous ne savons toujours pas comment on se dit bonjour exactement au XIVe siècle, quels gestes on fait. Pour les problèmes concernant les moines, on a pu interroger tel ou tel moine ou tel ou ordre monastique, avec parfois des réponses qui étaient « nous ne savons pas », parce que ça se passe au XIVe siècle. Bref, des solutions un peu empiriques. Aujourd'hui encore, nous avons pas mal de méconnaissances, notamment dans ce domaine des gestes. Quand nous regardons une miniature médiévale ou un vitrail avec deux personnages et un objet qui circule entre les deux personnages, qui donne et qui reçoit, c'est parfois difficile de décider. Voilà, donc il faut accepter de ne pas tout savoir.
Est-ce que vous avez eu envie de recommencer ? Est-ce que vous êtes un peu frustré que d'autres réalisateurs ou réalisatrices après ne vous aient pas contacté ? Je sais pas, je pense, moi c'est un peu une boutade, mais à Alain René, dans On connaît la chanson, quand il a évoqué cette célèbre réplique des chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, est-ce que, par exemple, il aurait pu vous appeler pour vous demander un peu plus de choses.
J'ai un ami qui a été l'ingénieur du son pour Alain René, pour On connaît la chanson, donc je connais un peu les dessous du film par mon ami Pierre Lenoir, un grand ingénieur du son. Mais en effet, personne ne m'a jamais recontacté vraiment pour participer à l'élaboration d'un film.
À bon entendeur, salut, hein. Michel Pastoureau, on parlait du cinéma comme l'une des origines, la principale peut-être, hein, de votre vocation de médiéviste. Mais il y en a une autre origine de cette passion qui est peut-être un peu plus tard, quand en classe de quatrième, un professeur de dessin vous a fait découvrir ce qui allait devenir votre passion, l'héraldique. Vous nous racontez ?
J'avais 12 ans, classe de quatrième. Un jour, il nous fait dessiner un vitrail avec des armoiries. Je me souviens très bien, elle représentait dans l'écu un dauphin stylisé, le mammifère. Et ces armoiries, je connaissais très mal, j'avais déjà vu ça, mais ça m'avait beaucoup plu, j'avais fait un beau dessin, et je suis allé demander au professeur quelques explications. Il m'a bien accueilli, m'a conseillé quelques lectures, il m'a dit « tu commences par le plus simple, tu regardes dans le dictionnaire, dans les encyclopédies, tu regardes à héraldique ou à blason, et puis tu continues tes lectures s'il y a un peu de bibliographie ». Enfin bref, c'est devenu une passion d'adolescent. Nous en avions tous, hein, dans ces années 1960, des passions d'adolescents. J'avais des camarades qui se passionnaient pour les soucoupes volantes, d'autres pour les fusées à Cap Canaveral, d'autres déjà pour le cinéma, et pour le sport, etc. Donc moi, c'est devenu l'héraldique.
C'était les armoiries médiévales.
Les armoiries médiévales et tout ce qui tournait autour, donc ça confirmait que j'aimais les chevaliers et le Moyen-Âge, j'aimais les couleurs, j'aimais dessiner aussi. Toujours eu un petit talent pour dessiner et notamment styliser en dessinant, styliser des animaux. Ça fait 70 ans que je le fais, je n'ai pas arrêté, je fais presque tous les jours des petits dessins. La couleur est omniprésente dans le système héraldique, donc ça a beaucoup compté pour moi dans les grandes classes du lycée. Puis ensuite, quand je suis devenu étudiant en histoire, tout naturellement, c'est ça qui m'a tiré des études d'histoire médiévale. On m'a dit que pour faire ça sérieusement, il fallait passer par l'école des Chartes, ce que j'ai fait.
L'école des Chartes, en un mot ?
L'école des Chartes, c'est l'école qui forme les conservateurs de musées, d'archives, de bibliothèques, mais qui forme aussi un certain nombre de chercheurs dans le domaine de l'histoire et de la philologie. Alors c'est une grande école, comme l'école normale supérieure, avec un concours d'entrée difficile, dont les deux dominantes sont le latin et l'histoire. Et donc, j'ai réussi ce concours.
Vous étiez fort en latin, déjà.
Oui, c'était ma matière forte. D'ailleurs, je précise que dans les années 1960, pour quelqu'un qui, comme moi, avait pris la voie classique, la matière principale, c'était encore le latin. C'était il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, ça semblerait extravagant. Donc, moi, je lis et je traduis du latin tous les jours depuis l'âge de 10 ans. J'aime énormément le latin. Mais donc, à l'école des Chartes, pour entrer, il fallait des épreuves de latin, notamment thème et version sans dictionnaire. C'est parfois difficile. Bon, nous étions bien formés. J'étais très heureux, moi, à l'école des Chartes. C'était pas le cas de tous mes camarades. Mais j'y ai rencontré mon épouse.
Vous lui avez fait la cour en latin, votre épouse ?
Non, pas nécessairement en latin, mais ça arrive d'écrire des petits mots en latin, bien sûr, par cuistrerie ou potacherie, si je puis dire. Bien sûr, ça faisait partie des traditions. Nous étions des étudiants très, très privilégiés, puisque nous étions, comme les normaliens, élève fonctionnaire, donc nous avions un pré-salaire. Alors moi, j'habitais chez mes parents, donc j'avais pas de problème pour me loger ni pour me nourrir, mais je recevais quand même un pré-salaire. Et puis nous étions à l'école des Chartes, c'est-à-dire au cœur du cœur de la Sorbonne, c'est la partie centrale de la Sorbonne, au cœur du quartier latin. Bref.
Mais vous, vous faites vos études donc à l'école des Chartes. Vous en sortez avec un diplôme d'archiviste paléographe, 4 ans plus tard, en 1972, après avoir soutenu une thèse. Et cette thèse portait, il n'y a pas de mystère, sur le bestiaire héraldique au Moyen-Âge. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas un sujet très porteur.
Non, j'ai même eu beaucoup de difficultés à imposer un tel sujet, même à l'école des Chartes, pour deux raisons. D'une part, l'héraldique, qui était une passion pour moi, ça semblait... un sujet réactionnaire, futile, d'un autre temps, lié à la noblesse, etc. Et la terreur de l'école des Chartes, c'était de passer pour une grande école ringarde. Il fallait avoir l'air à la mode, en prise avec l'histoire, nouvelle manière. Alors l'héraldique, non, c'était pas possible. Et puis surtout, le bestiaire, les animaux, mais les animaux, à cette époque, n'avaient absolument rien à faire sur le devant de la scène universitaire. Personne n'en parlait jamais dans les sciences humaines. C'était la petite histoire, et même la petite petite histoire, les animaux. Alors mes professeurs ont cherché à me faire changer de sujet. Ça, ils m'aimaient bien. Ils savaient que j'aimais beaucoup le latin, donc on cherchait à m'attirer vers la philologie latine, et notamment les termes latins de couleur en latin médiéval. J'ai tenu bon, et c'est le directeur de l'école qui m'a appuyé. Il m'a autorisé à faire ce sujet, puis après il a lu un peu de mes premières recherches, j'avais écrit quelques textes, et il a eu cette phrase absolument merveilleuse qui a tout changé pour moi. « Or, ce que vous écrivez, ça intéresserait beaucoup Jacques Le Goff. Il faudrait que vous alliez le voir. » Alors Jacques Le Goff, c'était le grand historien médiéviste et un grand intellectuel français déjà. Mais j'étais bien trop timide pour aller voir Jacques Le Goff. Et il a eu cette deuxième phrase encore plus merveilleuse qui a changé ma vie. « Je vais prendre rendez-vous pour vous. » Alors là, n'avait rien à faire. Jacques Le Goff m'a reçu, m'a encouragé, m'a avoué qu'il connaissait rien à l'héraldique, mais qu'il trouvait ça très intéressant. Il m'a suivi dans mes premiers travaux, je suis devenu son disciple, plus tard son ami, j'ai fait séminaire avec lui. Bref, ma vie a été changée.
Et de Jacques Le Goff, on reparlera dans la troisième émission, Michel Pastoureau, puisque vous avez été nommé conservateur à la Bibliothèque nationale de France, affecté au cabinet des médailles, un poste que vous avez dû quitter pour aller faire votre service militaire aux Invalides, et c'est là que vous avez écrit votre premier livre, « La vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la table ronde, 12e et 13e siècle ». Tout ça sous la tutelle de Jacques Le Goff, grand historien médiéviste, c'est ce que nous verrons demain. Bonne soirée à vous.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Patrick Muller, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.